Donc, sergent dangereux, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un sergent domanial du roi qui a pour charge de prélever le tiers des dangers, donc qui est une part des revenus liés à l'exploitation des terres dans les forêts qui ne dépendent pas du roi de France, mais dans lesquelles le roi de France en fait utilise son droit de suzeraineté et donc il va dans les forêts seigneuriales pour récupérer de l'argent au nom du roi de France. Voilà. Donc Guillaume Flambard, de qui s'agit-il ? C'est un noble de statut moyen, on va dire. Son père a acheté de plusieurs seigneuries. Donc pour l'instant, j'ai pas encore réussi à regrouper l'ensemble des seigneuries, mais ils ont acheté la seigneurie de Cléon, la seigneurie de Saint-Ligé de Bosc-Bordel et la seigneurie de Fleury-sur-Andelle. Donc on est plutôt autour de Rouen et dans la vallée de la Seine. Et lui fait partie d'une vraie génération de nobles, puisque on a une mention de son grand-père Guillaume, déjà chevalier dans les années 1380-90. Son père est écuyer entre 1390 et 1430. Il meurt en 1434. Et donc Guillaume arrive derrière. Et en fait, le manuel nous apprend beaucoup de choses sur la vie de Guillaume Flambard, puisque, je vais vous le montrer dans un instant, il contient un formulaire d'actes dans lequel, en fait, que Guillaume Flambard est allé chercher dans son propre chartrier. Donc, du coup, on a énormément d'informations sur cet individu, plus que sur la plupart de ses contemporains. On sait par exemple qu'il est émancipé en 1428, donc ce qui donne une naissance vers 1410. Son père décède en 1434, mais la succession est encore en problématique en 1438. Jusque dans les années 1460, on le voit très actif du point de vue économique. Il achète des rentes, il prend un couple en tant que serviteur. Mais probablement après des gros problèmes économiques, parce qu'il oblige même sa femme à renoncer à ses droits de douaire sur les biens communs. Il obtient l'office de sergent dangereux de la forêt de Rouvray, donc pour un an. Et cet acte de commission en tant que sergent dangereux, c'est le dernier acte du formulaire, donc qui est sans date. On sait que c'est vers 1460, mais on peut pas en savoir beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il me semble que c'est lui qui l'a rédigé, puisque il est sergent dangereux des forêts. Et en fait, ce manuel regroupe grosso modo deux grandes parties. Une partie sur les réglementations, donc des textes concernant la justice et la justice des forêts principalement. On a une copie d'une ordonnance de 1407 concernant la gestion des forêts au sein du domaine. On a un certain nombre d'éléments sur les droits, sur les personnes qui ont des droits sur les forêts, notamment celle de Rouvray, dans les années 1424. La dernière partie, qui est une ordonnance à nouveau de 1407, qui est issue de la Chambre des comptes, sur savoir comment on fait pour prélever justement les tiers et dangers. Donc on voit qu'il y a ici tout un recueil de textes réglementaires sur la gestion des forêts. Et en parallèle, on a ce formulaire d'actes qui contient soit des actes non anonymés et qui, là, concernent Guillaume Flambard ou des proches de Guillaume Flambard, soit des actes anonymés, donc soit sans nom, sans date, soit avec seulement une date, etc. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Et ces actes anonymés ou semi-anonymés, eux, portent principalement sur la gestion des forêts. Donc là, on aurait effectivement le manuel de quelqu'un qui, progressivement, à un moment dans sa vie, se retrouve à la tête d'une gestion de forêt et regroupe dans un seul recueil tout un tas de textes qui pourraient lui servir dans sa pratique quotidienne. C'est en tout cas comme ça que je le perçois, mais tant que j'ai pas encore vraiment la preuve, c'est pour ça que je l'appelle maintenant « dit de Guillaume Flambard » pour éviter de faire taper sur les doigts. En vous présentant rapidement le contenu, il apparaît quand même comme un recueil cohérent, vraiment, en plus avec le regroupement de savoirs juridiques et réglementaires et de savoirs pratiques avec des actes qui ont été réellement produits par des greffiers ou des tabellions, donc des professionnels de l'écrit. L'ensemble du manuscrit est relativement homogène. On ne voit qu'une seule main, sauf la dernière partie, celle que j'avais mise en troisième position, puisque celle-ci est vraiment à part. Elle a une autre écriture. Elle est écrite sur un bifeuillet particulier. Donc ça a été rajouté postérieurement. Donc là, je vous ai montré, par exemple, le début d'une ordonnance qui a été recopiée dans la partie réglementation. Donc on voit l'utilisation du rouge pour signaler les initiales des titres. Et dans la à droite, vous avez un extrait de la partie formulaire avec toujours l'initiale rouge. Et ici, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple, mais par exemple, il utilise aussi le rouge pour souligner tous les chiffres qui soient écrits en chiffres romains ou en toutes lettres. Donc il y a un vrai sens de la mise en page. Mais on va voir exactement comment ça se passe. À mon sens, même si c'est un manuel qui pourrait être donc produit par cet individu au moment où il devient ou juste après avoir acquis sa charge de justice, le fait qu'il ait apposé une typologie à des actes qui étaient réellement produits me semble dire quand même qu'il a un objectif de transmission, en tout cas aussi à l'attention de quelqu'un d'autre. On n'appose pas une typologie sur des actes si on n'a pas l'intention de le transmettre à quelqu'un pour qu'il puisse utiliser dans un élément futur. Mais ça reste encore à creuser. Il me semble que la question qui était à poser, enfin qui se pose avec Guillaume Flambard, c'est cet individu, à un moment donné, devient officier de justice, même si c'est l'office de justice de Forêt. La question, c'est est-ce que ça arrive clairement à la fin de sa vie. Donc, est-ce qu'il est en possession, en maîtrise des savoirs, notamment des savoirs d'écriture, que les autres peuvent avoir, et à ce moment-là, il s'inscrit finalement dans cette pratique, ou est-ce qu'il est obligé d'apprendre un peu sur le tas et un peu à la va-vite un certain nombre de savoirs que normalement il devrait maîtriser en tant qu'officier. Un sergent des forêts écrit énormément, il écrit les rôles d'amende, il écrit les enquêtes sur les différentes malfaçons ou crimes qui pourraient avoir lieu dans la forêt. Donc la question que je me pose par rapport à ce manuel, c'est finalement comment notre individu, est-ce qu'il fait déjà partie de ce monde ou est-ce qu'il fait partie des groupes qui tournent autour de ce monde des professionnels de l'écrit et donc n'a pas de difficulté à rentrer dedans, ou au contraire, est-ce que là, on sent une forme de précipitation, finalement. Donc, mon propos va se poser en deux points. Le deuxième point sera un peu plus léger. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, la première chose, je vais essayer de vous caractériser l'écriture chez Guillaume Flambard. Comme disait Pascal tout à l'heure, la question, ça va être la question de la variance entre ce que je vois dans le manuel et ce que je peux voir ailleurs chez les professionnels de l'écrit. Le problème, c'est dans quel ordre on pratique. Est-ce qu'on commence par caractériser Guillaume Flambard, mais finalement, je vais vous le caractériser parce que moi, je sais comment les professionnels de l'écrit travaillent. Mais bon, ça sera encore quelque chose à développer plus tard. Alors, du point de vue graphique, purement graphique, il maîtrise parfaitement le geste d'écriture. Il écrit, là je vous ai mis à côté, à droite, un registre du tabellionnage d'Alençon. J'avais fait ma thèse sur les tabellions à Alençon et en Normandie. Vous voyez que, bon, alors, il a l'air moins rapide, on dirait, dans le geste, mais c'est une cursive de chancellerie hyper classique, avec des hastes bouclés, donc vraiment typique. Sauf, vous voyez ici, je vous ai laissé le titre qu'il a indiqué, « Les patentes des Anglois », où effectivement, tous les titres avec des lettres qui ont des hastes, donc qui montent réellement au-dessus de la ligne, il ne met jamais de boucle dans ces cas-là. Donc il y a une vraie réflexion de sa part sur comment j'écris les lettres, en fonction aussi du statut du texte au sein même de la page. On voit quand même clairement qu'il y a quelque chose qui va ensemble. Deuxième élément qui est assez notable, c'est qu'il connaît tout le système d'abréviation. Donc je vous ai mis par exemple les deux premiers, c'est l'utilisation de la fameuse petite goutte pour la terminaison us, qui est une abréviation hyper classique, hein, qui existe depuis des siècles, notamment dans les textes latins. Et là, on voit bien, il a écrit vidimus avec l'abréviation US, atus avec l'abréviation US, et celle que j'ai un peu moins bien traitée avec Photoshop. On voit que là, la boucle, elle est en début de mot, et en fait, c'est pour désigner comparant, donc il est écrit ici la boucle P-A-R-A, un tilde au-dessus du deuxième A, et un S, donc pour faire le N qui manque. Et même, et à la fin, donc là, par contre, des abréviations nettement plus classiques, Escripture avec le tilde au-dessus du P, le tilde droit pour le RI, et pour la grâce, où là, de toute façon, un G avec quelque chose au-dessus, c'est forcément GRA, dans les textes contemporains. Un texte qui provient d'un registre de tabellionnage de Bellem des années 1480, présent, par exemple, c'est PNS, ça, clairement, Guillaume Flambard le maîtrise. Les héritages, ça va, ou les héritiers, enfin, les héritages, ça va être abrégé HIT. Et ça, effectivement, on le retrouve aussi bien chez les tabellions que chez Guillaume Flambard. Je peux continuer comme ça les exemples. On voit donc que Guillaume Flambard, du point de vue de la maîtrise du geste graphique, on va dire, rentre complètement dans ce moule. Et alors, j'insiste là-dessus parce que c'est pas forcément évident. Vous avez ici deux textes qui sont très, je les ai pris assez éloignés chronologiquement pour vous montrer les éléments. Ce sont des textes qui sont, eux, pas forcément rédigés par des professionnels. Vous voyez ici, le texte à gauche, c'est un brouillon de minutes. Donc on est au stade... donc les minutes, ce sont les versions brèves des contrats qui sont enregistrées chez les tabellions. Et là, en fait, cette version-là, c'est une version encore antérieure à la minute enregistrée. Et on voit bien la différence. Ici, vous avez en bas... l'indication, c'est un lot de succession, l'indication de la personne qui va détenir le lot, qui est écrite de la main du tabellion, et on voit bien les écritures. Ici, on a un Z, le D qui est très très bouclé, le G qui est assez caractéristique, qui tombe en bas, l'utilisation du Y assez fréquente, et puis surtout le R, j'arrive pas à en trouver un ici, un R très ouvert. Et on va retrouver ce genre d'écriture aussi. Ça, c'est un testament autographe d'un certain Jean Lefebvre, qui est le curé d'Orglande dans les années 1494, où on va avoir des R ouverts à nouveau et une gestion du G qui est un petit peu étrange, avec un G très très bouclé et très très sec. Donc ça veut dire qu'il existe d'autres moyens, d'autres façons d'écrire. Et clairement, Guillaume Flambard, il ne fait pas partie de ces gens-là, ou en tout cas, il fait partie plutôt de ceux qui maîtrisent l'autre système. Par contre, du point de vue, je dirais, linguistique de notre homme, on voit apparaître un système qui varie, et là, il varie au sein même du manuscrit. Alors, juste un premier élément de contexte. Pour l'instant, sur les 160 feuillets du manuscrit, je n'en ai édité que les 50 premiers feuillets, plus les trois derniers, les textes réglementaires de 1407. Donc j'ai pu travailler sur l'ensemble des textes réglementaires et le début des actes, des modèles d'actes. Ce n'est pas ma spécialité, mais ayant eu à travailler sur les analyses de type linguistique de corpus, j'ai utilisé un petit logiciel qui compte les mots pour essayer de voir finalement comment il écrit et quel est son système graphique. J'ai fait mon corpus de façon séparée sur le corpus, les textes réglementaires d'un côté qui contiennent 2908 mots et le corpus des actes du formulaire qui regroupe actuellement 2679 mots, mais il y en aura nettement plus à la fin. En fait, alors j'ai triché parce que en transcrivant, je me suis rendu compte, et là je vous en ai mis déjà un premier point. Il a tendance à utiliser le M de façon très très fréquente, notamment là où les professionnels de l'écrit auraient pu mettre un N. Donc prendre ici, je vous l'ai souligné, qui apparaît donc avec un M à 29 reprises dans les textes réglementaires. Alors je n'ai pas encore nettoyé mon corpus, ce qui veut dire que les deux premiers paragraphes de mes statistiques ne servent strictement à rien, puisque le mot le plus récurrent est « et ». Et le deuxième est 2. Donc il va falloir que je nettoie un petit peu ma base. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il faut aller très très bas. Titre, c'est moi qui l'ai indiqué. C'est moi qui ai indiqué titre pour voir des mots qui ont vraiment un sens par rapport à sa pratique. Par exemple, forêt, qui a un sens, puisque ce sont des réglementations sur les forêts, n'apparaissent qu'à 44 reprises. Donc c'est encore des choses qu'il va falloir prolonger, on va dire. Dans les modèles d'actes, voilà, on voit apparaître, alors bien évidemment, Flambard qui apparaît à 96 reprises, qui montre bien quand même qu'effectivement, c'est vraiment son manuel. Et on voit ici, c'est un autre nom de famille, Mustel, qui est le nom de famille de sa femme. Et on a beaucoup d'actes qui concernent sa femme et la famille de sa femme. Donc on voit ce qui ressort, en fait, c'est effectivement, c'est bien son manuel à lui. Certains mots sont à enlever, en fait, rouge et oblique, ça c'est moi des références qui me sont personnelles. Ce qu'on voit, par exemple, à nouveau l'utilisation de rente avec un M, on voit Rouen, je vous rappelle, on est en 1469, 1470, on voit Rouen à 25 reprises avec un M et à 40 reprises avec un N, ce qui montre là qu'il y a un vrai jeu, il utilise les deux, mais quand même de façon assez récurrente aussi, avec un M final au lieu du N. On observe, parce que le recours, alors je vous ai mis ici donc du coup une dernière diapositive sur l'utilisation du EM et l'utilisation de VE. En fait, ce que je cherchais principalement, c'était tous les mots qui avaient trait à vendition, à vente, pour voir si cet élément revenait assez fréquemment. On voit ici que vendre ou vendeur prend toujours ce sont tous les mots qui commencent par VE dans le corpus des modèles d'actes. On voit qu'en fait, vendre n'existe. Alors là, on a vendu avec un N, mais clairement, c'est systématiquement ou quasi systématiquement avec un M. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment une pratique, pour lui, une logique interne, que je n'ai pas pour l'instant bien saisie. Et ensuite, je suis allée chercher tous les mots qui contenaient EM, et on voit à nouveau rente, Rouen. Qui sont systématiquement avec un M, rendre également aussi. Si on compare maintenant les deux corpus avec le suffixe OM ou ONS, puisque c'est dans les mandements ou dans les actes, il y a beaucoup l'utilisation de la première personne du pluriel. Et donc j'avais aussi ressenti quelque chose qui sort ici, c'est l'utilisation de OM pour avon et non ONS. Vous avez ici le corpus dans les textes réglementaires. Donc on a avon, auron, aillon, pourron, pouvon, tout ça avec OM. Les ONS sont aussi assez présents, mais nettement moins, enfin un petit peu moins, ONS, donnons, voulons. Et j'ai trouvé quelques occurrences avec OMS, donc qui mélangerait à nouveau les deux. Je pensais que le fait de mettre un M allait l'empêcher de mettre un S final, mais en fait, clairement, non. Ça ne le dérange pas, même si ce sont des choses qui sont très marginales, finalement, dans sa pratique. Quand on regarde et c'est ça qui est intéressant, quand on regarde les modèles d'actes, eh bien, en fait, le avon n'est écrit que ONS. Et très peu, on a seulement deux récurrences avec avon OM. Ce qui veut dire que dans le cadre des textes réglementaires, quand ils les recopient, les textes réglementaires, nous ne savons pas actuellement comment ils circulent. On ne sait pas quelle est la forme qui circule exactement. Mais il est clair que lorsqu'il est face aux expéditions, aux actes produits par les professionnels de l'écrit, il rentre dans un moule qui est clairement différent de celui des textes réglementaires. Ou en tout cas, il se laisse moins aller à sa propre logique, parce qu'il recopie une expédition d'un tabellion ou d'un greffier. Alors, je sais que ça a été vu, enfin, j'ai rapidement vu des travaux récents sur cette question de la copie et du code et de la transformation du code en fonction de la copie, mais il me semble que, à travers ces quelques premiers éléments de l'enquête, d'une part, on observe une vraie logique interne dans sa façon d'écrire. Il y a aussi l'agrégation de lettres muettes. Par exemple, j'ai trouvé STEMS pour temps, T-A-N-T. Donc il y a parfois des associations avec en mettant une lettre devant le mot qui n'a aucun sens sans ça. Et puis cette logique interne semble quand même liée à la nature du texte qu'il écrit. Et il est capable d'évoluer ou de rentrer dans un moule plus ou moins, de façon plus ou moins claire. C'est cette comparaison avec les écrits produits par les professionnels de l'écriture que j'ai voulu faire en deuxième point. Alors, il s'avère que les expéditions, les actes qui sont qui sont conservés dans le manuel de Guillaume Flambard. J'en ai retrouvé des versions minutes dans les registres des tabellions eux-mêmes. Pour l'instant, j'ai fait la comparaison que sur 2 cas, mais j'ai 10 cas référencés où je sais que j'ai la version en minutes rédigée par le tabellion ou le greffier dans ses archives propres et la version telle que Guillaume Flambard a pu la recopier. Donc bien évidemment, dans la version minute, là à droite, il y a nettement moins d'éléments que dans la version expédition, mais ça c'est normal puisque dans l'expédition, dans l'acte entier, ils rajoutent des clauses que dans la version minute, ils vont mettre etc. parce qu'ils savent exactement quelles sont les clauses qui sont à mettre. Alors, on va retrouver cette question. Voilà. La question du M, on la retrouve ici. Il a avoir vendu. Alors en face, la version en minute est forcément au présent, alors que la version en expédition est forcément au passé. Donc on voit qu'il y a quand même l'utilisation du N. On va pouvoir à nouveau sur rente, c'est un mot à nouveau qu'il va écrire différemment puisque les tabellions l'écrivent forcément systématiquement avec un N. Mais par contre, on voit par exemple l'utilisation du G pour jardin dans la version par les minutes des tabellions, alors que lui utilise le J. Il écrit bien jardin, comme nous, on l'écrirait aujourd'hui. Donc là, on voit quand même qu'il y a ces bascules. Héritage, ils vont l'écrire... Les tabellions vont avoir tendance à écrire héritage, alors que lui va avoir tendance à rajouter un « i » après le « a ». Et il fait souvent avec partage, partage, etc., etc. Et même tabellion qui s'écrit systématiquement avec un « n » dans les textes, ici, vous l'avez avec un « m » final dans sa version à lui. Donc on voit quand même qu'il y a quelques différences, mais c'est celles que je vous avais déjà signalées parce que je savais un petit peu à l'avance ce que je cherchais, hélas. On voit dans la version de Guillaume Flambard, donc toujours le mot « rente » systématiquement avec un « m », ici « Saint-Maclou de Rouen » avec un « m », mais même là, lorsqu'il s'agit de « rente à héritage » par « an », il écrit « an » à « m », ce que le tabellion n'a pas écrit, bien évidemment. Lui, il a écrit par an, à n, puisque c'est une année. Donc, bon, pour l'instant, ce sont des choses qui sont plutôt ponctuelles ou qui concernent certains mots en particulier. J'ai quand même bon espoir d'arriver à pouvoir systématiser les éléments. Et il me semble quand même que là, ça permet de distinguer... en fait, ça va, plutôt que de caractériser l'orthographe de Guillaume Flambard, ça va surtout caractériser l'orthographe des professionnels de l'écrit. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça va fonctionner, puisque du coup, je vais être obligée de justifier de l'orthographe de Guillaume Flambard par rapport à ma norme. Et ma norme, dans mon cas en tout cas, puisque c'est celle qu'il utilise lui, ça va être celle des tabellions et des professionnels de l'écrit. Sur ces réseaux d'écriture, de pratiques d'écriture, on voit qu'il y a d'abord le réseau de maîtrise de l'acte et du geste d'écriture, et ensuite, à l'intérieur même, l'utilisation ou non des abréviations. Dans les textes que je vous ai montrés, qui sont écrits avec cette écriture bizarre, ils utilisent malgré tout les abréviations latines. Donc ce n'est pas parce qu'on utilise un certain geste qu'on n'est pas compétent sur les abréviations et la maîtrise d'une certaine forme d'écriture et d'abstraction de l'écriture, finalement. Et ça permet aussi de caractériser les normes graphiques. Et donc là, on voit une distinction entre normes graphiques, gestes d'écriture et maîtrise d'une abstraction de l'écrit. La première comparaison me semble quand même assez porteuse d'éléments. Et donc il va falloir que je continue à travailler sur ces actes des professionnels de l'écrit en parallèle avec Guillaume Flambard. Et puis, dernier élément, parce que certains dans la salle sont au courant, mais pas forcément tout le monde, il y a 15 jours, je me suis rendu compte qu'il existait des archives de la famille Flambard. Elles sont conservées aux archives départementales de l'Eure. Et ce sont en fait les archives du père et de la sœur de Guillaume Flambard. Et probablement que le procès sur la succession de son père, je vais probablement retrouver des originaux dans les archives de sa sœur. Je vais pouvoir là faire un sacré dossier. Et comme j'ai découvert qu'il était seigneur de Cléon, il s'avère que la seigneurie de Cléon fait partie d'une seigneurie dont on a le chartrier aux archives départementales de la Seine-Maritime, En l'état, les archives de Cléon sont plutôt des archives modernes, mais il sera peut-être possible de trouver des choses dans le chartrier global de la seigneurie. Et là, ça va permettre de remettre ce manuel dans un espèce de réseau d'écriture nettement plus large que ce que j'avais prévu au début. Hein, c'était pas du tout prévu du tout. Et du coup, là, de faire vraiment le lien entre professionnel, non professionnel et maîtrise et non maîtrise. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir avancer dans les prochains mois. Voilà, je vous remercie.